Et à la une en Israël ce matin, Lise, on va s'intéresser à l'Iran et ses proxys dans le conflit qui oppose Israël au Hamas avec votre invité que je vous laisse le soin de nous présenter.
Eh bien, je suis ravie d'être en ligne ce matin avec le docteur Ephraim Herrera, spécialiste de l'islam. Bonjour Ephraim Herrera.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, je voulais qu'on discute avec vous de l'Iran et de ses proxys et de leur rôle pendant cette guerre, Ephraim Herrera. On avait effectivement très peur que tous se mettent en œuvre. C'est tout de même un peu le cas néanmoins. Mais le chef des mollahs iraniens a pris la parole cette semaine pour dire au Hamas, vous ne nous avez pas tenu au courant de l'attaque du 7 octobre, donc nous n'allons pas entrer à vos côtés dans cette guerre. On ne le croit pas, à vrai dire, ou on doit le croire, Ephraim Herrera.
On ne peut jamais savoir avec ces ayatollahs pour lesquels la taqiyya, la dissimulation, fait partie des armes de la guerre. Ce qu'on sait de manière évidente depuis le début en 79, quand Khomeini a pris le pouvoir, il avait déjà écrit un livre qui s'appelle Hukuma et Islami, dans lequel il déclarait, en introduction à son livre, que le plus grand ennemi de l'Iran, ce sont les Juifs, et c'est le plus grand ennemi de l'islam. Et donc, ensuite, on a vu que les dirigeants iraniens, l'un après l'autre, ont toujours déclaré que l'État d'Israël est considéré comme un cancer qu'on doit éradiquer. Et la guerre contre Israël et contre les Juifs est une guerre ontologique. À la fin des temps, le 12e imam, puisque ça s'appelle la Shia du 12e imam, va revenir sur Terre pour exterminer tous les Juifs. Donc, on connaît très bien les buts de l'Iran. Ils sont très clairs. Il a développé, comme vous l'avez dit, une stratégie de proxy. Il fait intervenir des entités non étatiques qui attaquent Israël et qui attaquent aussi les États-Unis, qui attaquent toutes sortes d'ennemis de l'Iran sans avoir de responsabilité directe sur ce fait, comme par exemple les Houthis du Yémen qui tirent sur Israël aujourd'hui. Donc quand il dit qu'il n'attaque pas Israël et qu'il ne participe pas, c'est un mensonge. Aujourd'hui, le djihad islamique qui tire de Gaza, et ce matin on a trouvé des roquettes qui étaient prêtes à être tirées, des missiles prêts à être tirés, des Badr 3, c'est lui qui les finance, c'est lui qui les arme, c'est lui qui les entraîne. Donc dire qu'il n'est pas en guerre avec nous, c'est un euphémisme. La règle est que il ne va intervenir et rentrer en guerre qu'en fonction de l'intérêt de la nation, l'intérêt de la Oumma. Si c'est ça va faire avancer son but, alors il participera à la guerre. Et sinon, il n'y participera pas. Et de facto, on a au nord d'Israël le Hezbollah, qui est un proxy de l'Iran et qui a déclaré allégeance. Nasrallah, depuis le début, a déclaré allégeance au Wali el-Faqih, au guide suprême, à qui il doit obéissance absolue, et il est avec 200 000 missiles et roquettes face à Israël, avec ses soldats d'élite qui sont à la frontière. Donc on a le risque de se retrouver avec exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est une situation inviable pour Israël, et je ne pense pas qu'Israël va pouvoir laisser la situation comme ça à la fin de la guerre.
Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, Ephraim Herrera, sur lequel je voudrais votre avis. Le 16 octobre, donc près de 10 jours après le début de la guerre, le chef de l'AIEA a tiré la sonnette d'alarme en disant que le monde devait veiller à ce que l'Iran ne devienne pas comme la Corée du Nord, puisque pendant que la guerre continue, l'Iran, elle, de son côté, continue d'enrichir de l'uranium nucléaire. Et pourtant, alors que ce serait sans doute le moment, personne ne fait rien. Et l'Union européenne dit que c'est parce qu'elle craint qu'une confrontation avec l'Iran ne soit encore plus source d'instabilité au Moyen-Orient.
C'est encore pire. Les États-Unis ont maintenu la levée de l'embargo sur les fonds iraniens, ce qui permet en fait de financer ce terrorisme partout dans le monde. Donc on a une situation où l'Europe et les États-Unis font l'autruche et mettent leur tête dans le sable, il ne faudra pas s'étonner s'ils la retrouvent coupée. Donc il y a vraiment un phénomène grave. Cette idée à la Chamberlain de « on va essayer d'éviter la guerre par tous les moyens en donnant aux loups à manger beaucoup d'agneaux », je ne crois pas que ce soit très efficace, et c'est très dangereux. Et il faut qu'on prenne l'habitude de croire les ennemis tant d'Israël que de l'Occident dans leur but bien indiqué. Nasrallah a bien dit la mort à Israël, la mort à l'Amérique. C'est aussi d'ailleurs le slogan des Houthis. El maut à America, el maut Israël. La mort à l'Amérique, la mort à Israël. Et Allah na el Yahoud, et la malédiction d'Allah sur les Juifs. Donc les termes sont clairs, les buts sont clairs. Et ce qui manque pour l'instant, c'est des moyens, et ils sont en train de les développer. Au lieu de s'occuper de développer leur population, c'est à ça qu'ils s'occupent, exactement de la même manière que le Hamas s'est occupé avec le béton qu'Israël leur a fourni pour fabriquer un réseau de métro plus important que celui de Paris et celui de Berlin.
Comment expliquer justement, Ephraim Herrera, que l'Occident n'arrive pas à faire la différence entre la cause nationaliste palestinienne et les buts de l'islam radical ?
Je crois qu'il y a une non-volonté en Occident de considérer l'élément religieux, qui aujourd'hui a disparu de la carte pratiquement. C'est-à-dire que depuis l'époque napoléonienne, on sépare le religieux du politique, et dans l'essence du christianisme, on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On n'arrive pas à saisir en Occident l'importance de la religion, surtout quand il s'agit d'une religion politique. Din wa dawla, c'est la religion et l'État. L'islam, il n'y a pas de différence entre les deux. Comme disait Khomeini, l'islam est politique ou il n'est pas. Et donc ce manque de compréhension, cette non-volonté de compréhension, et surtout les universités, tant en Europe qu'aux États-Unis, qui reçoivent un financement très important des pays du Golfe et qui se refusent absolument à analyser le djihad, ses racines, ses buts, quel est le but de l'islam orthodoxe. Et tant qu'on ne veut pas se mesurer à ce phénomène et qu'on le déconsidère en ne considérant que les intérêts géopolitiques, ça a été la grave erreur d'Israël, pas uniquement des dirigeants, pas uniquement des services de renseignement, mais aussi de l'ensemble des politiques et de l'ensemble presque de la population, qui a espéré que si on leur donne de l'argent et qu'on leur donne de bonnes conditions, à ce moment-là, ils voudront vivre et ne pas s'occuper de guerre. Or, Khalid ibn al-Walid, le général de Mohammed, disait, quand il faisait le siège de ville, « Nous aimons la mort et la guerre comme vous aimez la paix et les plaisirs. » Il faut se réhabituer, se réintégrer à la conception islamique et bien la comprendre et savoir comment s'y mesurer.
Est-ce que c'est ça, en fait, qui est incompréhensible, Ephraim Herrera, pour les Occidentaux ? C'est ces différences de valeurs, ce changement d'état d'esprit, cette façon de penser que la mort est toujours préférable en toutes circonstances ? Peut-être que ça choque tellement la conscience occidentale qu'elle ne veut pas l'admettre ?
Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Et quand on enseigne aux enfants « je veux mourir pour le djihad » et ressusciter, et remourir pour le djihad, et re-ressusciter, comme ça figure dans les textes les plus orthodoxes de l'islam, il ne faut pas s'étonner que quand ils grandissent, ils deviennent les soldats du terrorisme et qu'ils commettent et qu'ils perpètrent les actes atroces qu'ils ont commis le 7 octobre. Ces actes-là, on les retrouve tout au long de l'histoire de l'islam, et particulièrement contre les juifs. J'ai rappelé dans un article le pogrom de 1066 à Grenade qui a fait des milliers de morts. On peut rappeler le pogrom de Fès, on peut en rappeler beaucoup. Tous ceux qui ont étudié un peu l'histoire de l'islam savent que c'est un phénomène qui va se reproduire et qui risque de se reproduire. Et tant que l'Occident reste les yeux grands fermés, on ne pourra pas s'étonner d'avoir encore soit des attentats, soit pire, des guerres. L'Iran se prépare aussi à avoir des missiles atomiques qui viseront l'Europe. Ce n'est pas si difficile.
Évidemment. Merci beaucoup, Ephraim Herrera, d'avoir été avec nous, docteur en sciences des religions, spécialiste de l'islam et des mouvements terroristes. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi et espérons une grande victoire d'Israël.